Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ça, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, on triga. Me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Il y a 2 ans, j'interviewais Marie sur le syndrome du bébé secoué. Et comme 2 ans plus tard, la justice avance mais la prévention continue contre ce fléau qui pourrait être évité, c'est Laura qui nous raconte son histoire. Laura a 19 ans et est en couple depuis quelques mois lorsqu'elle découvre sa grossesse. Et c'est le choc quand son ventre apparaît car en réalité, elle est déjà enceinte de 4 mois. Mais son copain la rassure et les voilà embarqués dans l'aventure de la parentalité. Lui est sportif de haut niveau. Elle a mis sa carrière entre parenthèses le temps du congé maternité. Très proche de son bébé, Laura s'en sépare très rarement mais l'heure de la reprise du travail a sonné. Alors elle s'absente une journée, et le soir le papa la contacte très inquiet de l'état de leur fille qui pleure et ne mange plus. Ils se rejoignent au CHU, et la descente aux enfers va commencer pour Laura. L'état de sa fille est critique, les médecins ne s'expriment pas beaucoup et semblent même suspicieux. Puis la brigade des mineurs embarque les parents pour un interrogatoire. Le diagnostic tombe, leur bébé a été victime du syndrome du bébé secoué. Le papa est jugé coupable, Laura perd pied et se raccroche à une vision idéalisée de son couple pour ne pas sombrer. Elle le défendra jusqu'au bout, prendra soin de sa fille lourdement handicapée et occultera complètement la responsabilité du père. Jusqu'au jour où elle ouvre les yeux. Dans cet épisode, Laura nous raconte son entrée inattendue dans la maternité, le jour où tout a basculé. Elle nous parle des séquelles du syndrome du bébé secoué et nous explique avec du recul son regard sur cette histoire, sur la justice et sur l'amour aveugle qu'elle avait besoin de porter au papa pour tenir bon. Bonne écoute.
Bonjour Laura.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Tu es la maman d'une petite fille. Elle a quel âge ?
Elle a pris 5 ans et demi, à 5 ans. Et
alors comment le sujet de la maternité est arrivé au sein de ton couple ? Toi, tu avais toujours voulu être maman déjà
Oui, j'avais toujours eu cette volonté. C'était logique. Enfin, ça coulait, c'était la continuité des choses pour moi. Après, il se trouve que Ina est arrivée quand j'étais très jeune.
T'avais quel âge ?
Je suis tombée enceinte, j'avais 19 ans. Donc, c'était pas prévu dans ce timing-là, on va dire. Je voulais des enfants, je suis l'aînée d'une fratrie. J'adore les enfants, j'ai été un peu au contact des enfants, donc oui, c'était évident, mais pas aussitôt, pas comme ça. Et en fait, j'ai fait un demi-grossesse. Donc, ce qui fait que j'ai pas su tout de suite, et voilà.
Tu l'as su au bout de combien de temps ?
Je l'ai su au bout de 3 mois et demi, 4 mois. Donc, où j'avais pas vraiment de signe, rien m'indiquait que j'étais enceinte. J'étais en début de relation, tout fraîchement début de relation avec le papa d'Ina. Donc voilà, et je l'ai su par hasard. Quelqu'un m'a abordé et m'a demandé, m'a dit, excusez-moi madame, vous seriez pas enceinte.
Ah bon?
Ouais. Et je ne sais pas comment, pourquoi, ça se voyait pas. Et j'étais avec ma mère, et c'est ma mère qui m'a dit de faire un test de grossesse. Ce que j'ai fait pour la rassurer. Pas pour moi, parce que je me posais pas du tout la question.
Et alors, comment t'as réagi quand t'as su que t'étais enceinte? Parce que là, du coup, tu pouvais même pas, t'avais pas le choix, tu...
Alors, déjà, j'étais avec ma mère en Guadeloupe, et du coup, le papa était ici en métropole. Donc, j'étais même pas avec lui. Donc, c'est vrai que... sur le coup, c'était compliqué. J'étais très, Enfin, pour moi, en fait, c'était pas possible. Donc, le test de grossesse, je l'ai fait sans problème. Mais au dernier moment, j'ai dit à ma mère, regarde le résultat à ma place. Parce que il y a cette appréhension, c'est au dernier moment. Moi, j'en faisais pas la pierre. Et puis, ben, en fait, le test était positif. Et du coup, c'est ma mère qui me l'a dit. Et j'avoue que sur le coup, je me suis effondrée en pleurs. Je me suis effondrée en pleurs parce que il s'avère que plus jeune, je suis tombée enceinte et j'ai fait une fausse couche. Et du coup, j'avais l'impression de, sur le coup, de subir, dans le sens où je ne choisissais pas, je n'étais pas maître du timing, en fait. Je voulais bel et bien des enfants. Du coup, quand j'ai vécu cette expérience de perdre, de faire une fausse couche, je me suis dit que oui, j'aurais des enfants, que c'était effectivement ça, mais que là encore, c'était pas le timing. Mais du coup, c'était un peu, ouais, ça qui se répétait, quoi, ce schéma-là qui se répétait, et je n'avais pas décidé d'arrêter ma pilule, décidé avec le papa, que je voulais un enfant. Enfin, voilà, c'était, et puis, bah, surtout, j'avais 19 ans. Donc, je venais tout juste de quitter, la maison familiale, de m'installer, enfin voilà, ça allait très vite. Donc je savais, enfin je me sentais capable, mais en même temps, ouais, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est pas ce que je voulais, pas comme ça. Donc j'ai beaucoup pleuré. J'ai pas pu le dire tout de suite au papa et je lui ai dit 24-48 heures après au téléphone et il l'a bien pris. Parce que c'est ça aussi, une grosse appréhension à ce niveau-là. Et du coup, j'ai relâché la pression. C'était de la joie. Après, voilà quoi. Après, je me suis dit, de toute façon, elle est là. Voilà. Sauf que du coup, je ne savais pas que c'était une grossesse. Avec ma mère, on était persuadés que bah, j'en étais, je ne sais pas, à peine un mois, comme toute femme qui fait son test de grossesse, en fait. Et puis, j'ai eu des symptômes qui sont apparus très vite, physiquement, des changements qui sont apparus très, très vite aussi. En un week-end, mon corps a changé, donc c'est allé vite. Et moi, je savais pas trop, au final, enfin, tu vois, je me rendais pas compte. Je pense que ma mère, elle avait un regard sur moi, parce que du coup, j'étais en vacances chez elle, donc... je pense qu'elle se posait des questions, elle, mais qu'elle ne disait pas tout pour pas m'inquiéter. Et puis un jour, je me rappelle, elle rentre de course et je lui dis « Maman, j'ai senti quelque chose dans le bas du ventre, comme des petites bulles. Ça chatouillait, ça faisait pas mal. Hein. » C'était agréable. Et elle s'est raidie et elle m'a dit « Mais là, ce que tu viens de sentir, c'est ton bébé. » Elle me l'a dit comme ça, c'est pas normal. Elle me dit, t'es pas enceinte d'un mois, t'es enceinte de beaucoup plus là. Donc voilà, et du coup on était en Guadeloupe et donc j'ai pris rendez-vous chez un médecin, donc j'ai fait la queue à 6h du matin, enfin, c'était local. et elle m'a fait une estimation, alors je saurais plus dire, mais c'était pas vraiment la bonne là encore. Donc à partir de ce moment-là, je vois qu'effectivement, je suis dans un petit déni de grossesse à ce moment-là, et je décide de rentrer. Donc voilà, et je rentre en métropole, je prends l'avion et l'après-midi même, j'avais rendez-vous donc pour faire une échographie et puis pour faire un check-up total. Et là, j'ai su que j'étais enceinte de presque 4 mois.
Alors, comment tu l'as vécu cette annonce ?
Pas le temps d'encaisser, enfin. C'est bizarre d'en dire encaisser sur le coup, mais c'était un peu ça parce que c'est vrai que, voilà, vu mon âge, c'était pas prévu là comme ça. Il y avait tout le contexte de ma vie qui, enfin, sur le coup, pour moi, ça se prêtait pas forcément. Enfin, c'était pas comme ça. Et puis, en même temps, ces changements sur le corps qui vont très vite. J'ai pas le temps dans ma tête à 19 ans de me faire à l'idée que petit à petit, mon corps va changer. Non, mon corps a changé d'un coup. J'ai senti mon bébé, donc au bout de 10 jours. Donc, c'est des prises de conscience qu'il faut faire en accéléré. Donc ouais. Et puis, en plus, quand je suis rentrée en métropole, j'ai vu le gynécologue et on a une frayeur parce que c'était pas un très bon gynécologue et il s'avère qu'il nous a envoyé aux urgences. parce qu'il me disait que j'allais accoucher, que mon bébé n'était pas viable. Donc, ultime frayeur, après 8 heures de vol, je sais plus combien d'heures de décalage horaire, enfin voilà, c'était un peu, peu compliqué. Et au final, non, notre fille allait très bien, c'était une fausse alerte.
Et alors, comment elle s'est passée le reste de ta grossesse avec le papa?
Très rapide, là encore, parce que il s'avère que j'ai accouché un mois avant terme. Donc, j'ai fait une grossesse éclair, mais qui m'a semblé quand même assez longue, quand même. C'est pas ce que j'ai préféré, la grossesse. J'avais du mal avec ce corps que j'avais vu changer trop vite. Je pensais pas qu'une grossesse pouvait comprendre tout ça. On nous dit pas vraiment, en fait, à quoi s'attendre. On sait juste que le ventre va grossir, mais pas forcément tous les désagréments qui vont avec. J'avais du mal à manger. Je pouvais pas manger, je crois, avant 16 heures, parce que sinon j'avais des nausées. Je mettais un pied par terre, j'allais vomir. Enfin, voilà, c'était un peu compliqué comme grossesse. Après, Ina était en bonne santé, en parfaite santé, donc c'était bien ça l'essentiel. Et puis, ouais, je me suis réjouie très vite, par contre, d'avoir une petite fille en plus, donc j'étais trop contente. Voilà. Et puis, ouais, j'ai accouché du coup un mois avant terme, on devait déménager pour raisons professionnelles. Donc, je savais pas si je devais accoucher à Angers. Là, j'habite à Amiens à ce moment-là, ou si j'allais accoucher à Amiens. Enfin, voilà, c'était... Du coup, j'avais deux dossiers à donner là où j'arriverais pour accoucher. Et puis, j'ai fait mes cartons. Donc, enceinte, j'ai fait tous mes cartons. Et puis, un mercredi soir, à 20h30, bah, je perds les os. Et là, pareil, je sais pas ce qui se passe. Enfin, je comprends pas trop, tu vois. Et puis, perdre des os, donc hôpital tout de suite. Et puis voilà. Ina est venue très vite, par contre, ça c'était chouette. En 6 heures, elle était là. Donc, un super accouchement. Enfin, en tout cas, bon, j'aurais aimé que la péridurale marche et pas qu'elle marche quand je suis remontée dans la chambre. Ouais, ils pensaient qu'elle allait venir, qu'il y avait le temps, et au dernier moment, ils me disent « Vous voulez la péridurale ?» Je dis « Mais oui, je vous le dis depuis tout à l'heure. » Elle me dit « Bah, c'est maintenant, faut y aller, en fait. » Du coup, voilà. Et je me rappelle, ouais, ils m'ont fait la péridurale. Je me suis rallongée, j'ai poussé 3 fois, elle était là. Le papa, quand il est rentré dans la chambre, il avait déjà la tête qui est. Donc, c'est venu très vite. Ouais. Et puis voilà quoi, c'était trop bien, enfin, sur un nuage. Ces 5 jours à la maternité, j'étais dans une bulle. J'ai pas ouvert la télé, j'étais dans une bulle, ouais.
Et tu faisais quoi? T'étais à l'école à 19 ans? T'avais commencé à bosser?
J'avais du coup arrêté l'école juste avant et du coup, j'ai arrêté l'école 6 mois avant. Donc, j'ai mis un petit peu en pause. J'ai fait mon congé maternité, quoi. Donc, j'étais auto-entrepreneur. Et puis, du coup, on a déménagé. Je suis sortie de la maternité qu'on a déménagé sur Angers. donc, voilà. Mais ouais, la maternité, j'ai ce souvenir d'être vraiment dans une bulle, quoi. Ouais. Plus rien comptait, plus rien n'existait, et c'était la maternité, c'était une évidence. Enfin voilà, c'est quand j'ai vu ma fille, quand j'ai senti ma fille, c'est ma vie a pris un autre sens. Ouais.
Ouais. Et tu t'es sentie tout de suite à l'aise en tant que maman quand t'es rentrée à la maison?
Complètement. Je me rappelle que mon père est venu à la maternité, et bon, pour mes proches, de mon côté, j'avoue que c'était pas spécialement dans un premier temps une super bonne nouvelle vu mon âge. Ils étaient assez inquiets de comment j'allais gérer, des inquiétudes, parce que eux, ils savent, ils ont eu des enfants et qu'ils les ont eu plus tard, en plus mes parents. Donc voilà, des inquiétudes à ce niveau-là. Et en fait, mon père, il était assez bluffé de voir que cet instinct-là, je l'avais, et que c'était inné, en fait. Et après, je pense que, oui, c'est, c'est ça aussi la maternité, c'est que c'est comme ça quoi. J'étais très très pas à l'aise. Il y a juste l'allaitement qui était un peu compliqué parce que ma fille en plus est née avec deux dents en bas.
Ah bon? Ah oui.
Il y a un enfant sur 1000. Je m'en serais bien passée. Voilà. Donc, et puis en fait, elle tombe au bout de 2-3 jours. Donc pareil, petite frayeur quand les dents sont tombées. J'ai appelé un peu au secours à l'aide. J'ai cru qu'elle m'avait mordu. Enfin... ouais, c'était... Maintenant, avec le recul, c'est drôle. Mais, donc voilà. D'ailleurs, on attend toujours les dents qui repoussent. Elle a toujours un trou à presque 6 ans. Mais ouais, non, c'était voilà, c'était parfait, ouais, c'était parfait.
Et alors avec le papa, comment ça se passait?
Avec le papa, c'était une relation assez intense sur plein de plans, sentimentalement. Son métier aussi qui prenait beaucoup de place dans nos vies.
Est-ce qu'il faisait quoi?
Il est sportif, donc voilà, c'est des métiers à passion, donc ça prend aussi de la place dans le quotidien. Du coup, c'était aujourd'hui avec le recul, sur le coup, cette grossesse, on l'a pas vécu vraiment ensemble. Il l'a vécu à sa façon, de son côté, et moi de mon côté à moi en fait. On vivait en fait ensemble, mais côte à côte et pas l'un avec l'autre en fait. C'est une relation qui était particulière, on va dire, et qui a été assez intense. L'arrivée d'Idna, il la voulait vraiment. Il me le disait, il me le répétait. Il était plus réjoui que moi. Il était même souvent des fois dans des incompréhensions parce que moi. Il avait l'impression des fois que je n'en voulais pas, ce qui n'était pas le cas, parce que une fois qu'elle était là, elle était là. Voilà, c'est juste que moi, c'était pas comme ça. Moi, je voulais arrêter ma pilule, prendre ce choix, acter en fait cette décision. Mais à une arrivée un peu compliquée, parce que quand en fait elle est arrivée, déjà c'était compliqué à deux au final. Je crois qu'on était aussi jeunes et qu'on s'en rendait pas compte. Et puis qu'il y avait un enfant, donc aussi pas trop le droit d'échouer. Enfin, il y a des questions qu'on se pose pas. Il y a un enfant, on pense pas à la séparation. En tout cas, moi de mon côté, c'était ça. Et donc quand elle est arrivée, effectivement, ça a peut-être un peu plus fracturé le couple, parce que moi j'étais vraiment très centré sur ma fille. Lui était assez pris aussi, donc il y avait une hygiène de vie, etc. Ce qui fait que c'était beaucoup moi qui m'en occupais. Et moi, en fait, j'ai centré mon monde sur Ina, sur ma fille. Donc voilà. Et j'étais tout le temps avec elle. Je m'occupais tout le temps d'elle. Enfin, voilà, c'était particulier, quoi. Je saurais pas trop comment l'expliquer parce qu'après on a aussi deux ressentis, c'est il y a le mien et puis il y a celui du père aussi, donc
Mais par rapport à ta fille, du coup, tu sentais pas un danger particulier?
Non, du tout. Du tout, parce que sinon j'aurais pas pu laisser Ina. Il a très peu été avec Ina au début, dans les premiers mois. Par exemple, je partais chez le coiffeur, voilà, il l'a gardé sur quelques heures, mais je lui ai laissé sans problème. Et puis, il était des fois un petit peu maladroit, mais comme tout père, au final, j'étais pas dans des craintes. Et puis pour moi, c'était son père, donc c'était normal qu'il ait sa place auprès d'Ina. Enfin voilà, à aucun moment je me posais des questions. Voilà.
Ouais, tu le sentais pas particulièrement stressé ou
Pas stressé, non. C'était plus au niveau du couple qu'il y avait des tensions en fait. Lui était très heureux, mais en fait émotionnellement, il gérait ça aussi très différemment de moi. Donc, non, je sentais pas du tout de danger. Enfin, voilà, éventuellement un petit peu de maladresse, mais rien de. Quand Yaina pleurait, c'était moi qui m'en occupais. C'est, enfin voilà, mais il y avait une hygiène de vie, il y avait du repos à avoir, etc. Donc c'était, enfin moi j'anticipais beaucoup pour justement alléger ça. Mais j'aurais aimé qu'il s'en occupe plus, peut-être, qu'il me relaie un davantage, mais non.
Oui, parce que lui, en tant que sportif, il devait avoir une hygiène de vie particulière.
C'est ça, du repos, des entraînements, et puis des matchs. Donc, les jours de match, bah, il n'était pas là, et du coup, la veille, il fallait qu'il ait dormi correctement. Enfin, voilà, donc.
Et alors, à quel moment ça a commencé à être compliqué
Un jour, j'ai décidé de reprendre le travail. Déjà, mon congé mat s'est terminé. Et puis, bon, j'étais auto-entrepreneuse. Donc, du coup, fallait que je remette... Enfin, j'avais tout doucement remis les choses un petit peu en place. Mais c'était pas une grosse... Enfin, ça prenait pas tout mon temps. Et du coup, j'ai créé un événement. Donc, j'étais sur Angers à ce moment-là. Je crée un événement à Nantes pour remettre en place mon travail. Et puis, bah, du coup, donc c'était un lendemain de match, c'était un dimanche. Donc, je décide de laisser en fait Ina avec son père parce que bah, pour moi, ça me semble le plus logique comme ça. Donc, le matin, je me rappelle, j'avais un pincement au cœur parce que c'était ma première vraie grosse séparation d'une journée. Je l'avais laissé une heure ou une demi-heure pour aller faire une course. Le plus longtemps que je crois que je l'ai laissé, c'était pour aller chez le coiffeur. donc voilà, petite appréhension, petit nœud dans le ventre à ce niveau-là.
Elle avait quel âge ?
Elle avait 4 mois et demi. Donc voilà, et le matin, je me rappelle, je joue avec elle. Enfin voilà, je fais les biberons, je prépare tout pour que tout soit nickel. Et puis bah, ils m'emmènent tous les deux à la gare. Et je me souviens que par la fenêtre derrière, je lui fais un bisou. Et puis après, je referme la fenêtre et puis je la regarde par la fenêtre. Et il y a nos regards qui se croisent, en fait. Et là, du coup, j'ai mon ventre vraiment qui se serre vraiment, vraiment. Et puis bah la voiture s'éloigne et puis bah moi il faut que je prenne mon train donc bah voilà la vie reprend et puis bon je me dis allez courage la séparation, la première séparation on la connaît hein, toutes les mamans en parlent voilà c'est pas forcément évident mais il faut que tu passes par là donc on y va, on prend le train et puis voilà donc je retrouve ma famille qui habitait à Nantes et puis je commence ma journée de travail aussi contente de retrouver des collègues contente de me remettre dedans aussi donc voilà la journée se passe et puis bah à la fin de ma journée de formation je vois que le papa m'a appelé donc je réponds et puis ma fille avait du mal à manger, elle était fatiguée, elle pleurait, donc du coup le papa m'appelait. Moi au début je pouvais pas trop répondre parce qu'il y avait encore des gens qui étaient là et donc je pouvais pas trop répondre. Et puis en fait au bout d'un moment ben on se rend compte que en fait c'est assez sérieux donc voilà il m'envoie des vidéos et là encore j'étais accompagnée de ma mère et on se dit que c'est peut-être de l'hypoglycémie en fait, que voilà, elle est un petit peu en hypotonie, elle était un peu en hypotonie et en fait on se dit que bah voilà, c'est peut-être de l'hypoglycémie, on sait pas trop parce que on n'est pas là en fait. Et il nous dit qu'elle veut pas manger, donc qu'elle dort, qu'elle est pas éveillée en fait et qu'elle pleure. Donc je lui dis tu fais un biberon d'eau avec du sucre dedans. Enfin en fait je sais pas je trouve des choses comme ça spontanément qui me viennent Et puis bah là, c'était l'heure d'aller manger, c'était le soir. Hein, donc nous, avec mes collègues, on faisait un repas après. Donc je pars au restaurant. Et de là, sur le parking du restaurant, il me rappelle et en fait, je revois ma fille en vidéo et je me dis qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche. Donc je lui dis, moi, je suis pas là. Donc appelle les pompiers. En fait, il y a quelque chose de pas normal. Dans son état, moi je l'avais jamais vu comme ça et puis en fait ce qui me faisait surtout peur c'était ses pleurs que je connaissais pas. On avait l'impression d'un animal en détresse en fait, enfin c'était des gémissements, ça, et en fait à certains moments elle s'endormait, donc il me dit là elle s'est calmée, elle dort. Donc bref, je lui dis d'appeler les pompiers et puis au final avec ma mère on décide de faire pas demi-tour, mais ma mère me ramène en voiture sur Angers et je lui dis voilà, on se retrouve au CHU. Donc on se retrouve au CHU effectivement à 21h, le temps de faire la route. Et là du coup je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais en même temps pour moi c'était quelque chose de pas très grave. Enfin, je sentais pas qu'il y avait quelque chose de dramatique. Dans tous les cas, j'étais dans la voiture un petit peu stressée, un peu angoissée, inquiète pour mon bébé. Savoir qu'elle était à l'hôpital, j'étais pas bien, mais dans tous les cas, j'étais loin d'imaginer ce qui se passait et ce qui allait continuer, les heures qui allaient suivre, quoi, ce qui m'attendait. Et donc j'arrive, il venait de faire l'admission. Donc je finis de clore l'admission parce que j'avais certains papiers avec moi de notre fille. Et puis là tout de suite je vais la voir et en fait elle était donc dans un lit bébé et a continué de gémir en fait. Enfin de, tu vois, ces pleurs qui n'étaient pas vraiment des pleurs, c'était des appels au secours. Elle était hypotonique, enfin méconnaissable quoi quelque part. C'était pas la petite fille pleine d'énergie que je connaissais, parce que à la base Ina c'est un enfant assez plein d'énergie, très vif. Déjà pendant la grossesse elle remue pas mal. Donc je la retrouve comme ça et par réflexe je me mets au-dessus d'elle en fait. Je baisse les parois du lit et je me mets sur elle pour qu'elle ressente que j'étais là. Et en fait, comme ça, elle arrêtait de pleurer. Je pense qu'elle était toujours en souffrance, mais ça la rassurait. Enfin, je l'enveloppais en fait de mon corps, vraiment pour faire une cloche au-dessus d'elle. Et je vois que en fait, ça l'apaise. Donc, je reste vraiment comme ça et je lui parle. Et voilà. Les médecins viennent, ils nous demandent ce qui s'est passé. Pareil, je vais voir le papa, je lui dis, mais fin, explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, elle s'est mise à pleurer, après elle s'endormait, enfin, effectivement, elle avait des phases de sommeil, ce qui en fait, après, on s'est rendu compte qu'elle tombait dans le coma petit à petit. On est jeunes parents, j'avais jamais vécu de drame, surtout des enfants, enfin voilà, c'est quelque chose de délicat, comment savoir que quelqu'un tombe dans le coma, enfin. Sinon je l'aurais dit vraiment en tout premier lieu, va aux urgences. Pour moi c'était un enfant qui dormait. Et puis à cet âge-là les bébés font beaucoup de siestes, donc ils dorment beaucoup, donc voilà. Et puis effectivement on voit que les infirmières, les médecins se succèdent et nous disent, enfin il y a un peu de l'incompréhension de leur part et on les voit un peu tourmentés en fait. Mais moi, j'étais focalisée sur ma fille. En fait, j'étais en pleurs. Je me rends compte qu'il y a vraiment quelque chose de grave qui est en train de se passer. Au final, je prends conscience de ça et puis je veux être là pour ma fille. Donc, je fais un peu abstraction du reste. On l'envoie faire un scanner. On l'envoie faire plusieurs examens. Il me semble qu'on lui a fait, je sais plus, un IRM, peut-être même le soir où elle arrivait. Il y a beaucoup d'examens. Donc, moi, je la suis. À chaque fois, on va dans les salles d'attente, des salles d'examen, enfin voilà. Et à la fin, on nous dit, on a une place en réanimation, donc on va la monter en réanimation. Vous n'allez pas pouvoir l'avoir tout de suite parce qu'il faut qu'il la prépare, enfin, qu'il la branche, qu'il la relie à des machines, etc. Pour suivre ses constantes. Donc, ça a duré jusqu'à 3h du matin. À 3h, on nous a dit qu'on pouvait venir la voir. dans le box. Donc, du coup, j'entre, je reste dormir avec elle. Et le papa rentre chez nous et ma mère rentre également sur le monde chez elle à ce moment-là. Et donc là, je passe ma première nuit à l'hôpital. Clairement, je dors pas parce que je comprends toujours pas ce qui se passe, ce qu'elle a. Les médecins ne parlent pas vraiment. Ils attendent les réponses des examens. Au final, je crois qu'ils avaient déjà les résultats des examens, mais en fait, enfin moi, je suis dans, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai tous ces bruits de machine. Le réanimation, c'est quand même aussi très particulier. Et puis ma fille est surtout tombée dans le coma à ce moment-là. Donc en fait, j'ai un bébé. J'ai plus qu'un corps en fait. J'ai plus qu'un corps et je prends pas conscience de ça. J'en prends conscience plus tard. Mais effectivement, c'était ça. C'était plus qu'un corps qui était là, qui dormait. Donc voilà. Le lundi matin, je vois que les médecins se réunissent à l'accueil, au centre des box. Enfin voilà, des défilés de médecins, d'infirmières, des gens qui viennent prendre des constantes, et voilà. Et toujours personne qui m'explique. À part qu'on me dit, voilà, votre fille est dans le coma, mais pas plus. Et là, le papa revient. Et là, effectivement, on sent de la suspicion. On sent qu'il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas. Enfin, voilà, on se sent... je ne saurais pas dire, mais enfin, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, en tout cas. Donc, moi, je veux savoir. Je demande les résultats des examens. Et on me dit, voilà... votre fille a un hématome sous-dural, il y a des risques de convulsion, c'est très grave à cet âge-là. On balance des mots comme ça, mais pas plus. Un hématome sous-dural, ils sont bien gentils, mais qu'est-ce que c'est? Enfin, quand t'as pas fait médecine, qu'est-ce que c'est en fait? Hématome, je te suis jusque-là, mais sous-dural, voilà. Mon père arrive à l'heure du déjeuner et me convainc de venir me reposer. Chez moi, d'aller prendre une douche le temps du déjeuner et de revenir après. Et juste avant de partir, une assistante sociale vient nous parler. Donc, on va dans un bureau et là, on me dit, voilà, c'est là qu'on nous révèle qu'il y a une suspicion de maltraitance et que les policiers vont ouvrir une enquête et qu'ils vont venir nous poser des questions dans l'après-midi. Donc, en fait, quand j'entends maltraitance, je le prends pour moi. Je ne calcule pas du tout le père de Ina parce qu'en fait, c'est moi qui m'occupe d'elle à 98% du temps. Donc, en fait, je le prends pour moi, je le prends très mal et je dis, mais non, en fait, jamais il y a eu de maltraitance. Je me suis toujours occupée de ma vie, j'ai toujours fait tout ce qu'il fallait. Non, vous vous trompez en fait, c'est pas possible. Et donc, ouais, je reviens dans la chambre, dans le box et mon père me dit, prends pas. T'aérer la tête, il faut que tu sois forte parce que là, tu vas rester du temps à l'hôpital, donc va prendre une heure pour toi. Donc on rentre tous chez moi pour déjeuner, moi j'ai juste le temps de prendre une douche et puis on repart. Et on arrive de nouveau à l'hôpital, je vois Ina, donc pareil, ça n'a pas bougé, hein. En fait on se rend compte qu'à chaque fois qu'on y retourne, ça ne bouge pas, voilà, la petite elle est toujours en coma. Et là, la police arrive et nous dit, veuillez, est-ce que vous voudriez bien nous suivre pour poser des questions? Ben oui, de toute façon, on n'a pas le choix, la police vient de voir, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne vais pas dire non. Mais en vrai, oui, dans ma tête, c'est non. Enfin, écoutez, là, en fait, j'ai ma fille qui est dans le coma.
Et vous demandez à venir tous les deux, ensemble?
Oui, ouais. Ensemble, mais à ce moment-là, en fait, on nous sépare. Moi, en fait, je vais voir mon père, je lui dis « Papa, reste là avec Ina, s'il te plaît, la quitte pas jusqu'à ce que je revienne, en fait. Je veux pas qu'elle soit seule. » Il me dit « Oui, t'inquiète pas, voilà. » Et en fait, à ce moment-là, je vais au casier chercher mon manteau. Donc oui, le papa part devant, donc avec des policiers. Et puis moi, je fais pas attention, en fait. Enfin, je me dis pas « La voiture nous attend. » Enfin, je prends mon manteau, je prends mes affaires, et puis voilà. Et en fait, c'est une autre voiture. Il y avait deux voitures qui nous attendaient, donc... une voiture pour chacun de nous. Et là, on ne sait pas, mais on part en garde à vue. Donc, on va là-bas, sirène, gyrophare, il était aux alentours de 15-16 heures. Et j'arrive dans le bureau, Ouais, ma veste, c'était même pas moi qui l'ai prise, c'était le père de Lina, et je me rappelle avoir froid, en fait. J'étais gelée de stress intérieur, en fait. Et du coup, je leur demande d'aller chercher ma veste, donc je récupère ma veste, et là, en fait, on commence l'interrogatoire. Et donc, en fait, on nous décrète, on nous dit nos droits. Donc, vous voulez un avocat? Bah, non, parce que, en fait, j'ai rien à me reprocher. Vous voulez voir un médecin? Bah, non. Un appel? Bah, non. Puis, enfin, on veut montrer qu'on est de bonne foi. Donc, non. Et puis, l'interrogatoire commence. Et on te dit que, bah, là, en fait, ça y est, à l'heure qu'il est, t'es en garde à vue. Et que, en fait, t'oublies pas que faut remettre les choses dans le contexte et que ta fille est dans le coma et qu'en fait, enfin, en tant que maman, c'est viscéral ce besoin d'être auprès d'elle, en fait. Mais que tu peux, en fait, ça y est, on t'a privé de ta liberté, que ce droit-là, ce besoin-là, en fait, tu ne l'as plus. Et c'est là, en fait, que on m'explique ce que ma fille a. Ce n'est pas un médecin qui vient m'expliquer ce que ma fille a, ce sont la police, la brigade des mineurs. Donc on se retrouve dans un bureau où il y a marqué des dossiers violeurs, des choses ignobles, et on te traite comme quelqu'un qui a fait du mal à un enfant et à ton enfant. On te traite comme un coupable, quoi. Et là, on me jette les mots bébé secoué. Est-ce que vous connaissez le bébé secoué, le syndrome du bébé secoué? Ben non. Personne ne nous avait dit. Alors aujourd'hui, on a peut-être fait un léger progrès, je ne sais pas. Je n'en suis pas très convaincue, mais en tout cas, théoriquement, quand on quitte une maternité, on met en garde, on nous prévient des risques plus ou moins. Moi, ça n'a pas été le cas. La maternité, j'en ai jamais entendu parler. Pendant ma préparation à la grossesse, j'en ai jamais entendu parler. Syndrome du bébé secoué, je ne connaissais pas. Et je leur dis, bah non, je ne connais pas. Vous avez déjà secoué votre fille? Bah non. Racontez-moi la journée du samedi et la journée du dimanche. Parce que le samedi, du coup, moi, j'étais toute seule avec Ina. Le papa travaillait. Et le dimanche, il était tout seul avec Ina. Mais à aucun cas, en aucun moment, que ça soit de mon côté ou de son côté, il y avait pu avoir maltraitance. Enfin voilà, il y a erreur. Il y a erreur, c'est ce que j'ai répété en boucle, en boucle, en boucle. Et on me fait répéter ma journée plusieurs fois jusqu'à ce qu'on ne sache plus, on me confond jusqu'à fatigue. Et là, on me dit, bah, madame, vous allez passer la nuit en garde à vue en cellule, enfin en bas. Et là, c'est le drame, en fait, parce que je ne revois pas ma fille. Ma fille va passer la nuit seule. Parce que du coup, mon père, en fait, il se trouve qu'entre-temps, ils l'ont appelé pour l'interroger. Donc du coup, ma fille était seule. Donc bref, je descends en garde à vue, en cellule. C'est assez humiliant, en plus. On prend nos empreintes, on nous met dans une pièce sombre pour retirer le soutien-gorge pour ne pas faire de tentative de suicide, on retire les lattés, c'est glauque, quoi, et ça rajoute du dur et du dramatique à ce qui est déjà très dramatique en soi. Et voilà, je passe une nuit en garde à vue. Pendant la nuit, j'entends qu'ils sont venus chercher le papa de ma fille pour continuer les interrogatoires. Moi, il n'y en aura pas d'autres dans la nuit. Plus de notion du temps, je parle, je prie, je suis plus là. Mais en fait, je suis plus vraiment là. Et le lendemain matin, on revient me chercher. Et là, on me dit que... parce qu'au début, ils ne me croyaient pas que j'étais à Nantes. J'ai dû leur fournir la preuve du billet de train, et même ça, c'était pas suffisant. Ils sont allés appeler des collègues à moi pour m'assurer que j'étais bien là. J'ai mis du temps à être mis hors de cause. Et puis même une fois que j'étais mis hors de cause, je sais pas, peut-être après le déjeuner, il fallait faire une confrontation. Donc on part en confrontation avec le papa. Et là, en fait, on essaie de trouver, de comprendre. Alors il dit... peut-être qu'en jouant, j'ai voulu faire trop fort, je faisais l'avion. Peut-être qu'au bout d'un moment, j'ai cogné le cosy. tout un tas de choses. Et puis même moi, j'essaie de trouver une explication rationnelle. Mais non, pas de secouement. C'est trop. Enfin, en fait, je conçois pas un instant que mon compagnon, le père de ma fille, puisse faire ça, comme je conçois pas que le voisin que je ne connais pas puisse faire ça à un enfant, que ce soit mon enfant ou l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est horrible. C'est horrible. Donc voilà, on termine cette confrontation qui au final n'était pas vraiment une confrontation, c'était juste deux parents complètement démunis et qui essayaient de comprendre. En tout cas, de mon point de vue, c'était ça. Je retourne en cellule et là, ils me disent que j'en ai encore pour quelques heures. Je demande des nouvelles de ma fille, mais on me donne pas grand-chose. Et là, on me dit qu'il faut qu'ils récupèrent des choses. Il y a une perquisition chez moi qui doit se faire. Sauf que mes clés étaient restées au casier tant à l'hôpital. Donc, on va à l'hôpital. Je me retrouve à 10 mètres du box de ma fille. Je demande à la voir. On me le refuse. Et là, mes jambes ne me tiennent plus. Je tombe par terre. Enfin, c'était trop. Enfin, le corps tient plus, en fait.
Tu t'écroules, quoi.
Ouais. Ah ouais. Là, c'était violent. Les médecins, voyant ça, c'est leur métier, hein, de prendre soin des gens. Enfin, donc, ils me récupèrent, ils me mettent dans une pièce et ils demandent aux gendarmes, à la brigade des mineurs, de au moins me permettre d'avoir des informations, hein, de donner des nouvelles. Ça, ils acceptent. Donc, j'ai des nouvelles, mais pas grand-chose qui a pu évoluer. Sauf que bah là, en fait, j'entends les mots de la part d'un médecin. Parce que du coup, les médecins m'avaient pas dit ce qu'avait ma fille, donc là, voilà. Donc, je récupère les clés, on va chez moi. Ils récupèrent le transat, ils récupèrent la tablette, ils récupèrent nos téléphones. Ils récupèrent ce genre de choses pour l'instruction. Et on rentre au commissariat. Là, on me dit que ça y est, c'est bon, je suis mise hors de cause au bout de 30 heures. Donc, j'attends que ma mère vienne me chercher pour retrouver ma fille. Et le papa reste en garde à vue. Et on m'informe que je ne peux plus le voir. Et que l'instruction, en fait, il va être déféré auprès d'un juge d'instruction. Et que le juge d'instruction va statuer sur le fait de... Dans l'attente du procès, est-ce qu'il va en cellule, enfin en prison, ou est-ce qu'il est libéré en attendant ou pas. On me dit de prendre un avocat. Enfin voilà, en fait, je rentre au-delà du monde médical et de toute cette sphère médicale. Il y a aussi la sphère juridique et en fait, j'en prends conscience à ce moment-là. Il y a toute l'enquête, tout ce qui est lié à ça. Donc je retourne voir ma fille. Et puis, pas d'évolution, en fait, toujours dans le coma. L'attente est longue. Les médecins ne me disent pas grand-chose. J'ose à peine la toucher parce que c'est traumatisant. En fait, on se rend compte à quel point tout peut basculer d'un instant à l'autre. Et on m'a accusé d'avoir fait du mal à ma fille. Parce qu'au début, en fait, c'était ça. C'était lui ou moi. Et en fait, on m'a mis... Donc, en fait, j'ose pas la toucher. Le lendemain, il faut faire sa toilette. C'est les infirmières, je les laisse faire. J'ai mis beaucoup de temps j'ai mis quelques semaines avant de redonner un bain après plus tard à ma fille. Enfin, ouais. Et puis quand j'arrive justement, je demande à la prendre dans mes bras parce qu'en fait, elle est branchée de partout et elle est maintenue, pour pas bouger, enfin vraiment. Et je demande, est-ce que c'est possible de la prendre dans mes bras? On me dit oui, demain. Ok, demain, et je les lâche pas avec ça. Et au bout d'un moment, on me dit, installez-vous dans le fauteuil. Bien, vous êtes bien. Oui, mais enfin, en fait, donne-moi ma fille. Enfin, en fait, là, j'ai besoin de l'avoir contre moi. Donc, je l'ai déjà pris dans les bras. Enfin, tu vois, dans ma tête, c'est ça. C'est donne-moi ma fille. Est-ce que vous êtes bien? Vous êtes sûre, etc. Et en fait, je me rendais pas compte du tout de ce qui allait se passer. Et on me la pose. Et en fait, ce que je te disais tout à l'heure, c'était un corps. Et là, en fait, le corps est terriblement lourd. La tête pèse très lourd. Et c'est un effort en fait que de l'avoir, et puis émotionnellement, psychologiquement, de se rendre compte que bah, ton enfant n'est pas vraiment là. Et là, je prends conscience qu'il y a un risque, bah, elle ne revienne pas. Donc, c'est un des moments qui reste marqué. Enfin, il y a des images comme ça, il y a des choses qui reviennent, et ça fait partie. C'est une prise de conscience. Donc voilà, elle se réveille au bout de 5 jours de coma. Donc un coma léger, hein, quand même, c'est pas un coma très profond, mais voilà, elle revient à elle. Et elle fait un épisode de convulsion. Donc là encore, c'est impressionnant puisque c'est des tout petits bébés à 4 mois et demi. Impressionnant. Les médecins sont inquiets, ils donnent un traitement pour ne pas convulser. C'est le seul et l'unique épisode de convulsion qu'elle ait fait. Enfin, après, peut-être que avant d'aller à l'hôpital, on en a fait, mais je l'ai pas vu, mais en tout cas, le seul qu'elle ait fait après. Et donc là, on reste donc une semaine au total en réanimation. Et ensuite, on descend en neuropédiatrie pour 15 jours. Ina retrouve quelques... Enfin, elle n'est pas très énergique, mais voilà, je retrouve des signes de vie. Donc, elle ne mange pas, elle est intubée. Hein, fait, ben, là, on donne à manger par voie veineuse. Et elle est très hypotonique, en fait. Enfin, c'est un bébé qui déjà donc hématome sous-dural, donc un hématome au niveau du cerveau. Le cerveau a cogné donc, sur la boîte crânienne. Donc, ça a fait un gros hématome qui, donc, cause des lésions pour la plupart irréparables. Il y a aussi du sang sur la rétine. Donc, ma fille, est, à ce moment-là, elle est malvoyante. Et à ce moment-là, quand elle se réveille, les médecins font des tests et elle ne voit que la lumière. Tout à l'heure, je disais qu'au moment de la quitter, le dernier contact que j'ai eu, c'est à travers la fenêtre où on se regarde dans les yeux. Et ça, je vais pas le revivre avant des mois, voire une année. Je perds ce contact qui a été dur pour moi. Enfin,
ouais.
C'est quelque chose, le regard entre de ton enfant, c'est quelque chose. Et quand tu le retires, c'est d'autant plus difficile. Et puis une hypotonie, elle avait une asymétrie, c'est-à-dire que le corps ne commandait plus une partie du corps, le côté gauche. L'influx nerveux ne passait plus. Donc, des problèmes neurologiques, hein, le cerveau était en très très mauvais état. Donc, heureusement, le sang, l'hématome s'est résorbé. Donc, elle n'a pas eu d'opération à ce niveau-là. Et par la suite, pour les yeux, elle sera emmenée à Paris à 2 reprises pour 2 opérations des yeux pour retirer le sang sur la rétine parce que ça ne se résorbait pas. Donc, une opération à 6 mois. Et une opération à 10 mois. Et pareil, ça, c'est des moments compliqués. Laisser mon bébé à un chirurgien avec une anesthésie, enfin, c'était une grosse opération. Et la deuxième opération était très très difficile pour ma fille parce que je sentais que la douleur, au bout d'un moment, elle ne pouvait plus. En fait, c'était trop.
Ouais.
Et là, on a beau donner du doliprane, tout ce qu'on veut, tous les calmants, morphine, c'est terrible. C'est un nourrisson, c'est... Elle s'est accrochée, en fait. Elle s'est accrochée. Parce que la douleur, c'est immense. Enfin, je la remercie encore aujourd'hui de s'être accrochée parce que, pour moi, ça tient du miracle. Enfin, elle est revenue déjà et elle s'est accrochée. Donc, ouais, 15 jours de neuropédiatrie. Et ensuite, on nous transfère dans un centre de rééducation. Donc, on va au centre... des Capucins à Angers où on est très très bien pris en charge. On a une équipe très humaine qui m'aide aussi à comprendre ce qui se passe, qui m'investit. Enfin voilà, c'est et donc on est en hôpital de jour et de nuit, donc je dors encore sur place. On y reste plusieurs mois. Au total, je fais 6 mois d'hôpital avec Ina avant de pouvoir revenir dormir chez nous la nuit. Voilà. Et donc là, c'est le début d'un long combat de la rééducation. Donc Ina est handicapée à ce moment-là, malvoyante, donc visuellement, et moteur. Voilà.
C'est-à-dire qu'elle peut pas marcher.
C'est-à-dire qu'à 15 mois, tu sais, ils tiennent leur tête, ils se tiennent assis, enfin, il y a un début, il y a une tonicité, ils prennent un biberon, enfin, mine de rien, en fait, ils apprennent à faire tout un tas de choses dès les premiers moments de vie, et voilà. Bah, Inan ne savait plus rien, il fallait lui redonner à manger, enfin, lui réapprendre à téter le biberon, à tenir sa tête, enfin, voilà, j'avais un bébé de quelques jours dans un corps d'un bébé qui avait 5 mois, presque 6 mois, parce que bah après les mois passent et Ina a mis du temps à récupérer, et donc le décalage se crée à ce moment-là aussi. Donc voilà, j'ai jamais retrouvé un enfant. Aujourd'hui ma fille a 5 ans et demi. Des fois, j'ai une petite fille de 5 ans et demi. En plus, elle est très grande. Donc, voilà. Mais c'est pas un enfant de 5 ans et demi. Voilà. Le décalage s'est créé là, à ce moment-là, déjà. Donc, voilà, rééducation. Elle avait un emploi du temps dans sa chambre qui était digne de mes emplois, qui ressemblait à mes emplois du temps au collège et qui était digne de mes emplois du temps au collège. Avec de la kiné, de l'ergothérapie, de la balnéothérapie, psychomotricienne. Psychologue. Alors du coup, la psychologue, c'était pour moi parce qu'ils avaient aussi peur que je craque, que je tienne plus. Par mon jeune âge aussi, ils étaient inquiets.
Et alors, pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qui se passe pour le papa? Toi, est-ce que tu arrives à assimiler l'information?
Donc, on n'a plus le droit de se voir. Le papa, il se trouve qu'il est libéré, donc il a un contrôle judiciaire. Il n'a pas le droit de revenir au domicile. Il ne peut pas voir notre fille. Et on peut pas se voir. Il arrive à me contacter, on reste en contact. Il me dit qu'il a rien fait, il est bouleversé. Enfin, je le sens. Enfin, en fait, tu te donnes mon ressenti du moment, tu vois. Aujourd'hui, j'ai pris du recul. Enfin, c'est compliqué d'expliquer les choses avec le recul que j'ai aujourd'hui et en même temps comment j'étais à ce moment-là. C'était compliqué avant, en plus, entre nous. Et là, clairement, il est dans une reconquête. Et quelque part, j'attendais que ça. Donc, voilà. Je ne crois pas un instant qu'il ait pu faire ça. Je ne crois pas un instant et ça va durer très, très longtemps. Les médecins ont beau essayer de me clamer au effort que ça s'est passé comme ça, qu'il y a eu ci, qu'il y a eu ça. Ça ne rentre pas. Je suis amoureuse. Alors, quand on dit que l'amour rend aveugle, alors, je suis tout le temps là, bah non, l'amour ne rend pas aveugle. Je suis lucide, j'ai la tête sur les épaules, je suis là, je suis. Je dis non, je tiens tête au médecin, à ma famille, à mes parents, qui ne comprennent pas. Et puis, c'était un peu nous contre le reste du monde, en fait. Mon ex-compagnon, donc le père de Ina, et puis moi. Je suis un peu là-dedans et en fait, au final, c'est ma bouée de secours. Si je l'avais pas eu, je sais pas si j'aurais tenu. On va dire que la vie fait bien les choses dans un sens, c'est que ça devait se passer comme ça parce que je devais tenir pour ma fille et c'est lui qui m'a fait tenir. Au final, tout ce qui m'a dit à l'époque, on va dire belle parole ou pas belle parole, j'avais besoin de les entendre pour tenir, pour faire front. Je l'ai revu aussi, ce qui était donc contre-indiqué. Et interdit. On s'est revu et c'est ça aussi qui m'a fait tenir. J'en avais besoin. Et puis ça restait l'homme que j'aime en fait. Je le voyais pas. Non, c'était pas possible. Donc voilà, ça a duré plusieurs mois comme ça. Au bout d'un moment, on nous dit qu'il faut qu'on peut rester qu'en hôpital de jour. Donc là, on dort, commence à dormir chez nous et. Donc voilà, donc pareil, c'est compliqué pour moi de retourner chez moi parce que j'ai trop peur. Parce que déjà, je vais en tant que maman quasiment célibataire parce que je suis peut-être encore en couple, mais je suis toute seule à la maison. Je m'occupe d'un enfant, un bébé handicapé. Et puis il y a de la rééducation tous les jours. Donc pareil, on continue les allers-retours pour les rendez-vous et voilà. Et ça dure encore aujourd'hui. J'ai entre 6 à 7 rendez-vous par semaine de différents spécialistes, rééducateurs pour que ma fille puisse continuer d'avancer. Au bout d'un moment, Ina va progresser. Le premier progrès, c'est qu'elle commence à avoir visuellement un contact qui se rétablit, à tourner la tête quand elle voit quelque chose passer. parce qu'avant on pouvait faire ça, se regarder, ne bougez pas. Après il y a le contact visuel qui se refait, donc on se regarde de nouveau dans les yeux, voilà. Et puis bah il faut lui apprendre à se retourner sur le ventre, donc beaucoup de kiné, apprendre à faire du quatre pattes, parce que tout ça c'est pas inné. Ma fille a jamais fait du quatre pattes, les pieds, les genoux par terre et les mains par terre. Elle avait que les pieds et les mains par terre. Au capitaine, les gens la reconnaissaient de loin. C'était un petit mougli. Elle a toujours fait les choses à sa manière. Voilà. Et ce qui compte, c'est qu'elle les fasse. Donc voilà. Et puis au bout d'un moment, il y a eu la marche. Donc elle a marché vers. Elle a vraiment acquis la marche vers 2 ans et demi. Il y a eu aussi des peurs incontrôlées, un bruit, quelque chose, une sensation. Qui la faisait paniquer, et du coup en fait littéralement elle nous grimpait dessus jusqu'aux épaules, comme un animal là encore terrorisé qui a peur, parce que bah elle est privée de certains sens, et certains sens sont exacerbés, le toucher, l'audition, donc pareil, il a fallu aussi que moi je me réadapte. Quand je sais qu'elle, enfin voilà, qu'elle écoute quelque chose, j'écoute. Aujourd'hui, j'arrive à écouter ce qu'elle entend. Alors que la maîtresse, par exemple, dans le quotidien aujourd'hui, elle ne va pas entendre ce qu'une a entendu dehors. Enfin voilà, elle développe ça. Le syndrome du bébé secoué, c'est très très particulier parce que aucun enfant bébé n'est secoué de la même manière, donc n'a les mêmes séquelles. Et ensuite, chacun va avoir une plasticité différente et une récupération différente. Donc, chacun va encore récupérer différemment. Les médecins ne peuvent jamais se prononcer. Ils m'ont dit qu'elle sera peut-être paraplégique. Bon, aujourd'hui, elle marche, elle court, elle saute. Donc, voilà. Mais à côté de ça, encore aujourd'hui, quand je vais faire des rendez-vous, on constate. On constate, à tel jour, elle fait ça. La maman nous dit que c'est comme ça à la maison. Et Ina, à l'examen, ça dit que ça. Voilà, rien de plus, rien de moins. On est toujours dans les incertitudes. Donc voilà, Ina donc, a appris à marcher. Visuellement, elle en a regagné. Et puis, le papa ne pouvait toujours pas voir Ina. Donc, le papa a déménagé en Suisse, à Genève, à ce moment-là.
Donc lui, à ce moment-là, il poursuit sa carrière de sportif.
Le juge le libère avec ce contrôle judiciaire et lui allège le contrôle judiciaire pour qu'il quitte le territoire français aussi au bout d'un moment, pour qu'il travaille et pour qu'il subvienne à nos besoins. Parce que moi, je peux pas travailler. Je suis là avec Ina. Et en gros, c'est un peu ça le deal, entre guillemets. Et moi, par la suite, je vais faire des allers-retours avec Ina pour qu'il voit sa fille.
À quel moment tu prends conscience que, en fait, si potentiellement c'est lui qui a fait du mal à ton bébé ?
À aucun moment. Il s'avère que du coup, il y a un jugement. Il y a eu un jugement qui a eu lieu fin 2017. Moi, j'en attendais qu'on puisse vivre ensemble, parce qu'en fait, j'étais toute seule à Angers, à m'occuper d'Ina, et c'était très dur. Je menais un peu beaucoup de choses de front, que ça soit les avocats, les judiciaires, parce qu'on a eu des auditions avec juge d'instruction, etc. Enfin, ça a continué. Les médecins légistes qui viennent faire des rendez-vous médicaux à Ina, enfin voilà, constater des choses. Le côté médical, les rendez-vous, la rééducation avec Ina, et puis le quotidien de maman. Enfin voilà, je vivais que comme ça et je sentais que j'allais bientôt perdre pied et il fallait que je retrouve cette vie de famille qui soit là, enfin voilà, dans mon quotidien. Et je m'accrochais à ça. Donc je suis allée au procès en continuant de clamer que moi j'étais de son côté, que c'était pas possible qu'il ait pu faire ça. Lui, il a dit qu'il était innocent. Qu'il n'avait rien fait, et du coup moi je me suis rangée de ce côté-là parce que j'aurais pas pu rester avec voilà, pour moi c'était voilà, de base ce qu'il dit c'est la vérité, enfin. Et la procureure de la République a dit Madame Fleury, un jour j'espère qu'elle va pas se réveiller en tombant de très très haut, l'amour rend aveugle, enfin voilà, j'ai entendu ça pendant tout le procès. C'était un moment très, très, très dur, très intense. C'était lui qui était jugé, c'était lui qui était à la barre. Mais qui était derrière ? C'est moi. Avant de rentrer, il était très stressé. Enfin, voilà, on était très stressé. Je suis allée le voir et je lui ai dit, c'est notre procès, en fait. Enfin, toi, t'es là, mais en fait, je suis avec toi. Ce que tu vas prendre, je vais le prendre, en fait. Ouais. Et il s'avère que je ressors de là un peu comme étant la grande gagnante parce que déjà, on nous donnera le droit de réhabiter ensemble. Il sera donc jugé coupable. Ce droit de revivre ensemble, pour moi, c'était tout ce que je voulais. Il a 3 ans de sursis, 5 ans de mise à l'épreuve, il me semble, et des indemnités à verser à une financière. Donc on sort du procès, je suis à l'époque un peu la grande, je me sens grande gagnante parce qu'on a aussi reconnu le combat que j'ai mené pour ma fille et que si ma fille a aussi récupéré, etc., c'est parce que j'ai rien lâché. On met à l'honneur, mais en même temps, ce que je voulais, je l'ai eu en fait. Voilà, on pouvait de nouveau vivre ensemble. Donc moi, nul ni deux, mes cartons sont faits. Et je pars vivre en Suisse. Et là, on va vivre un an ensemble. Et puis, ben, en fait, c'est un peu la désillusion parce qu'on n'arrive pas à créer un foyer. En fait, au final, on se retrouve là où on s'était quitté. Et déjà, avant l'accident, en fait, Dina, ça allait pas. Il y avait déjà, en fait, au niveau de la famille, il y avait une fracture. C'est moi qui continue de m'occuper d'Ina essentiellement. Je me retrouve assez mal, au final, isolée. Et puis, cette continuité de fatigue, physique, fatigue émotionnelle. En fait, j'arrive à Berne et c'est un peu tout qui s'arrête. Cette pression que j'avais, les avocats, le jugement, plein de choses, ça s'arrête. Et puis en même temps, il se passe plus rien. Et là, en fait, je me rends pas compte, mais je pars en dépression. Je fais une dépression et je me rends compte que quand j'en sors, c'est-à-dire plus d'un an après. C'est le fait de me retrouver, en fait, et qui me fait comprendre que j'allais vraiment pas bien et jusqu'où ça a pas été. Le papa met un terme à notre relation il y a 2 ans. Pour moi, c'est la fin de ma vie sur le moment. Enfin, vraiment, littéralement, c'était ça. C'était très, très dur pour moi. Pendant plusieurs mois, je m'accroche. Je suis tellement persuadée que ça peut marcher. Incapable d'arrêter. Et puis, je rentre en France. Je rentre à Angers. Parce que, au final, Angers, c'est là où il y avait la rééducation d'Ina. Donc, on reprend la rééducation. Parce qu'en Suisse, il fallait des papiers. Enfin, c'est pas le même système qu'en France. Donc, c'était très long et elle a pas pu avoir de rééducation. Donc, c'est moi qui faisais un petit peu ce que je voyais. Parce qu'à chaque rendez-vous, quand elle était bébé, je pouvais assister. Donc, j'essaie de la stimuler un peu de la même manière. Toujours qu'elle soit dans la stimulation. Voilà, bouger vraiment pour qu'elle ait toujours le plus de choses qui la stimulent. Voilà. Donc voilà, et on rentre à Angers, donc on reprend la rééducation. Je retourne chez ma mère pendant plusieurs mois et je fais le deuil de cette relation qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Et puis là, comme toute séparation, au bout d'un moment, on arrive à avoir un recul. Alors il y a différentes étapes de deuil aussi par lesquelles on passe. Et puis, je me rends compte de certaines choses. J'ai un recul. Je suis plus aveuglée par l'amour. Enfin, plus de la même manière, en tout cas. Et j'ouvre les yeux sur des choses qui nous concernent. Et par la suite, je me dis, s'il y a eu ça, manipulation, etc., mensonge. En fait, je me disais que si un jour, il m'avait menti, ce qui peut être humain de mentir, en fait, là-dessus. Enfin, c'est tellement dur de reconnaître avoir failli causer la mort au final de son enfant, être responsable de ça, c'est très compliqué de se l'avouer à soi-même et de le verbaliser. Mais je me disais qu'un jour, si jamais il l'avait fait, il me le dirait, ou la culpabilité reprendrait le dessus, il ne pourrait pas continuer de vivre avec ça. Et en fait, l'année où j'ai vécu avec lui, il n'y a pas une once de culpabilité, pas... Rien. Donc en fait, moi, ça m'a confortée aussi là-dedans, de me dire, à ce niveau-là, j'y vais de la même manière que moi. Et donc en fait, il s'avère que ça fait que seulement un an que que je me suis rendu compte que j'avais fait fausse route et que j'ai ouvert les yeux sur la responsabilité du papa dans le handicap de ma fille et que j'ai accepté la sentence qui était tombée il y a quelques années en arrière. Voilà. Et de ça, j'ai beaucoup de culpabilité.
Ouais, t'aurais aimé faire autrement finalement et qu'il soit sanctionné pour ce qu'il a fait.
Ouais, après, c'est compliqué pour moi de mettre des mots dessus parce qu'aujourd'hui, j'ai un recul qui fait que déjà, je suis plus amoureuse. Moi, j'ai ce voile qui est levé et en fait, je me regarde et avec du recul et je ne comprends pas qui était cette fille. Je me suis complètement perdue, j'allais vraiment mal. Et je comprends pas mes choix. J'ai l'impression de m'être réveillée, de m'être retrouvée moi d'avant ma grossesse au final, parce que j'ai un peu enchaîné le déni de grossesse, l'accouchement, l'accident, tout s'est enchaîné en fait. Donc là, je me retrouve de moi avant la grossesse et je me dis c'est passé quoi entre les deux. Et j'ai fait des choix et c'est difficile pour moi de les assumer. De ne pas les regretter. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne se serait pas vu, par exemple, après l'accident, j'aurais pas tenu, par exemple. Enfin, voilà. Donc, c'est aussi difficile pour moi de regretter parce que je sais que certaines choses ont été nécessaires pour moi pour tenir le coup. Est-ce que j'aurais aussi bien tenu sur la durée, encaissé, je ne sais pas. Je pense que les choses sont faites pour... Enfin voilà, ça s'est passé comme ça, je ne peux pas revenir dessus. Et c'est peut-être comme ça que ça devait se passer le mieux pour que j'arrive à gérer la situation.
Et donc aujourd'hui, vous en êtes où des instances judiciaires? Est-ce que tout est...
Alors les instances judiciaires, c'est terminé. En ce qui concerne l'accident, il y a le volet pénal du moins qui est terminé, il y a le volet civil qui court toujours. Les indemnités d'INA, etc. seront chiffrées qu'une fois qu'elle sera consolidée. La consolidation, ça arrive aux alentours en général de vers 18-20 ans. C'est quand l'enfant, jeune adulte, ne progresse plus et ne régresse plus. Quand il y a une stabilisation, parce qu'il y a des séquelles qui peuvent arriver à tout moment. Comme tout à l'heure, je le disais, INA, pour nous, elle était handicapée moteur, handicapée visuelle, malvoyante. Mais on s'est rendu compte quand elle a commencé à reprendre l'école, donc il y a un an quand on est arrivé, un an et demi maintenant, quand on est rentré à Angers, elle est rentrée donc en moyenne section. On s'est rendu compte qu'il y avait un handicap cognitif qui était bel et bien là. Donc du retard sur les apprentissages, Ina est propre que depuis cet été. Elle mange difficilement en autonomie, toute seule. Mais j'aime pas la stigmatiser que par le handicap, elle a développé d'autres choses. Elle est très empathique, c'est une boule d'amour. Elle aime pas quand les gens vont mal, quand ils pleurent, elle va les voir, elle leur fait des câlins. Elle m'a vu pleurer pour ma rupture à certains moments en me disant, elle m'a pris dans ses bras comme un adulte l'aurait fait. Et elle m'a dit, t'inquiète pas, papa est là. Et des fois, on la sous-estime parce que justement, il y a ce retard cognitif, ce retard sur les apprentissages, ce retard qui est là, sur l'âge, l'aspect cognitif, etc. Puis à d'autres moments, elle nous surprend tellement à sortir des choses comme ça, tellement vraies, comme tous des enfants au final, parce que voilà. Et elle est pleine d'énergie, elle a une force, une énergie incroyable. Et donc oui, elle marche, elle court, elle saute. Elle se dirige, elle est autonome visuellement pour se diriger. Après, on a du mal à expliquer ça à malvoyant parce que c'est neurologique. Donc, ses yeux voient bien, c'est l'information qui n'est pas transmise correctement au cerveau. Donc voilà. Mais par exemple, là, on est sur l'apprentissage du vélo. Elle voudrait faire du vélo plus que tout. Et en fait, elle n'y arrive pas parce que l'influx nerveux du côté gauche, justement, ne passe pas. Donc, on est confronté de temps en temps comme ça à des choses qui fonctionnent pas, donc il faut faire autrement, il faut composer avec ça. Et puis voilà, Ina va à l'école 2 jours et demi par semaine et le reste c'est de la rééducation. Voilà. Donc elle a un quotidien qui est pas comme celui des autres enfants. Elle s'en rend pas compte de cette différence pour l'instant. Et puis, voilà, elle a des rendez-vous médicaux régulièrement. Elle est assez traumatisée par le monde médical. Elle a des troubles parfois qui peuvent être liés à l'autisme. Alors, je prends ça avec beaucoup de pincettes parce que bah, je ne suis pas médecin et les médecins ont du mal à l'expliquer. Mais voilà, des fois où elle a besoin de se balancer, des balancements. Des fois où elle va, le bruit, elle ne va plus le supporter. Ou le contact physique. Elle ne me touche pas. Et elle va se jeter par terre pour pas qu'on la touche. Alors que d'autres fois, elle va venir, elle va avoir besoin de câlins. Enfin voilà, elle a une sensibilité. Voilà. Donc des crises, de la frustration. Il y a beaucoup de violence aussi en général chez ces enfants-là. Qui se ressent. Beaucoup de violence, de colère, de frustration à gérer des crises comme ça, qui font partie du quotidien. Le confinement a été assez dur, le premier a été assez dur à gérer parce que on s'est retrouvé privé de tous les spécialistes, les rééducateurs du jour au lendemain. Mmh. Et mine de rien, c'est un grand appui. Le travail que ces gens-là font pour nous, c'est un grand, grand appui au quotidien. Ils mettent des mots, des fois, ils expliquent ce que nous, on n'arrive pas toujours à expliquer. C'est des relais importants. Et là, on ne l'avait plus. Je ne l'avais plus. Et je me suis retrouvée vraiment seule avec ma fille.
Est-ce que tu avais entendu parler de l'association Stop Bébé Secoué ?
Oui, je connais l'association Stop Bébé Secoué depuis un an. C'est là aussi où j'ai pu commencer à ouvrir vraiment les yeux sur ce qui s'était passé parce que j'ai commencé à vouloir chercher des réponses. Et du coup, effectivement, j'ai rencontré des personnes qui m'ont aidé aussi là-dedans à accepter les choses, à ouvrir les yeux sur les choses. J'ai rencontré d'autres enfants aussi qui ont été touchés par le SBS, par le syndrome du bébé secoué. Et puis, voilà, il y a des choses similaires dans les comportements. Et là, en fait, on est aussi confronté à la réalité, à se dire, ah oui, effectivement, ils n'ont pas les mêmes séquelles, mais dans les comportements, il y a des choses qui se regroupent vraiment. Et oui, les médecins ne peuvent pas se tromper. Enfin, en fait, on est confronté à la réalité et on a la réalité sous les yeux, donc on ne peut plus la nier.
Et est-ce que, du coup, le papa continue de voir sa fille ?
Alors, on n'est plus, du coup, dans des choses judiciaires qui concernent l'accident, mais du coup, il y a une séparation. Donc, on est passé devant un juge aux affaires familiales. Le papa donc est toujours, ne se considère pas responsable. C'est très compliqué. Le relationnel, déjà, de coparents est très, très compliqué. C'est un peu des discours de sourds. Il a des positions, j'ai les miennes. Je veux faire primer le bien-être de ma fille. Lui, il a du mal à l'entendre. Parce que pour lui, je le prive de sa fille. Moi, j'ai un discours qui est « je préserve ma fille ». Voilà, c'est compliqué. Ina a très peu grandi au final avec son père. Vécu du moins avec son père. Ça n'a que 1 an et 4 mois. Il y a un contact téléphonique hebdomadaire. Il a un droit de visite qui a aussi été réglementé par le juge, mais on est toujours dans des pourparlers. Enfin voilà, c'est toujours compliqué.
Parce que le fait qu'il ait été reconnu coupable par la justice, ça n'empêche pas aujourd'hui qu'il puisse continuer de voir sa fille.
En France, on a un peu une politique de la deuxième chance. En gros, on m'a confrontée. Je disais tout à l'heure que je suis sortie grande gagnante du premier procès. Et en fait, clairement, quand je suis sortie du JAF cet été, j'ai payé ma grande victoire de l'époque. Parce que je suis retournée vivre avec, parce que j'avais fait des choix, j'ai pris des décisions à l'époque, qui font que ça lui a donné de la force et que du coup, il a fallu que je redouble pour me battre, pour arriver à ce que moi je voulais pour protéger, pour préserver ma fille, en fait, qui est encore jeune, en fait. Voilà. Donc, oui, non, en fait, en France, le papa peut changer, le papa peut-être qu'à l'époque ne s'occupait pas bien ou pas assez, ou enfin peu importe, je parle pas du père Dina, mais voilà, de manière générale, peut-être qu'il n'était pas assez investi, mais aujourd'hui, rien n'empêche le papa de s'investir aujourd'hui. Et peu importe au final, je crois, ce qu'il ait fait. Voilà, c'est ce que les avocats, ce que les juges m'ont dit. Donc, c'est encore beaucoup de moments compliqués à passer. J'ai beaucoup de mal avec la justice française parce que peut-être que moi, je l'ai défendue, mais voilà, j'avais 20 ans. Aujourd'hui, j'ai peut-être que 6 ans de plus, mais mine de rien, la maturité, c'est pas la même, donc j'ai pas le même recul. J'étais très amoureuse, ça n'explique pas tout, hein, voilà, mais c'est un fait. Il y avait aussi de la manipulation, enfin voilà, des choses, sans rentrer dans les détails, mais voilà, des choses de cet ordre-là. Donc voilà, mais en gros, je le paye, et personne n'a pensé à prendre soin de ma fille aujourd'hui, surtout il y a certains aspects qui n'ont absolument pas été pensés, alors que ma fille était représentée aussi par des avocats et qu'aujourd'hui il faut que j'aille me battre pour aller chercher des choses qui sont complètement je comprends pas en fait. On nous a pas protégés, elle comme moi de certaines choses. On n'a pas pensé, on n'a pas anticipé, alors qu'à l'époque pendant le procès, ils ont posé, la procureure de la République voulait retirer l'autorité parentale du papa.
Oui.
Donc on a quand même posé la chose. Aujourd'hui, c'est impossible de retirer l'autorité parentale. Il faudrait qu'il recommence, en fait. En fait, voilà, le jour où il se reproduit un nouveau drame, là, la justice sera en capacité de faire quelque chose pour moi, ou pour Ina. Mais ça sera peut-être trop tard. Voilà.
Et alors toi aujourd'hui, t'en es où en tant que femme, en tant que maman? Est-ce que t'as réussi à te reconstruire un petit peu après toute cette épreuve?
Ben moi, je suis beaucoup une maman. Je suis beaucoup 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 une maman. Je me suis reconstruite. Déjà, j'ai fait le deuil de ma séparation. Je suis passée à autre chose. Et voilà, je me suis reconstruite. Je me suis retrouvée. D'avant ma grossesse, enfin voilà, donc je suis de nouveau en harmonie avec moi-même, voilà. Après, j'ai un quotidien de maman à gérer, un quotidien de maman célibataire, vivement seule avec son enfant tout le temps, parce que du coup, moi, j'ai pas de garde alternée, donc j'ai pas ça non plus. Donc, je suis vraiment tout le temps, j'ai de la chance d'avoir quand même une famille qui m'entoure bien. Mais j'avoue que là, je commence à sentir une fatigue émotionnelle. Enfin voilà, c'est compliqué de tout le temps se battre et pour des choses qui on ne devrait pas se battre en fait pour ce genre de. Enfin voilà, c'est assez dingue, c'est assez dingue. Mais voilà, ouais, ma vie, c'est Ina, ma fille. Beaucoup de rendez-vous. Là, elle est à l'école, je vais aller la chercher pour la ramener faire manger, parce que du coup, elle a une AVS à l'école, mais il s'avère que, par exemple, l'AVS sur le temps scolaire et sur le temps périscolaire n'est pas la même. Donc, par exemple, elle ne peut pas manger encore à la cantine parce qu'on n'a pas l'AVS sur le temps périscolaire. Enfin, voilà, tu vois, c'est sur des petites choses comme ça du quotidien qu'il faut se battre, comme il faut se battre sur des choses plus grandes par rapport aux droits de garde, visite, tout ça. Enfin, voilà, c'est tout le temps, en fait, tout le temps ça. Et puis, donc tout le temps, faire des allers-retours, aller chercher ma fille, l'emmener au rendez-vous en fin de semaine. C'est jeudi, vendredi, c'est réservé à la rééducation. Donc voilà, quoi. Et puis, elle a des besoins, elle a des terrains nocturnes. Voilà, il faut que j'y réponde. Je dois être là pour elle.
Et est-ce que tu es aidée financièrement?
Elle est reconnue à la MDPH, Ina, donc du coup, effectivement, il y a une allocation pour les personnes étant reconnues comme étant handicapées en France. Donc, judiciairement, dans notre malheur, on a eu beaucoup de chance de la façon dont ça a été géré. On a une procédure qui a été faite de A à Z comme elle l'aurait dû, elle devrait être tout le temps être faite. Parce que en prenant contact avec l'association du syndrome, l'association qui lutte contre le SBS, Stop Bébé Secoué, je me suis rendu compte que tous les signalements ne sont pas faits, toutes les procédures ne sont, enfin, il y en a, ils sont toujours pas jugés, enfin, les gardes à vue sont faits bien longtemps après, enfin, voilà, il y a des choses pas possibles, mais vraiment, mais, et je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de chance parce que on a fait notre garde à vue tout de suite, un juge d'instruction a été saisi tout de suite, l'instruction a été faite tout de suite. Ça a duré 2 ans, c'était long pour nous, mais au final, on a eu énormément de chance. Et ce qui fait que bah, du coup, Ina est quand même reconnue en France effectivement comme étant handicapée. Et du coup, effectivement, ça ouvre à des droits. Et puis le papa, forcément, du coup, verse une pension alimentaire. Voilà.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité ?
Ça a été une révélation. Je me suis découverte, je me suis accomplie dans la maternité. Je veux avoir d'autres enfants, je veux revivre ça. C'est un accomplissement, c'est un amour inconditionnel, c'est ma fille, c'est ma douleur au quotidien parce que le quotidien n'est pas simple, mais c'est ma joie, c'est mon bonheur, c'est l'amour, c'est ma vie, hein. Enfin voilà, c'est une expérience qui est incroyable.
Merci beaucoup, Laura.
De rien.
Merci d'avoir écouté Le Tourbillon. Et si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant un avis et 5 étoiles sur votre application podcast. Cela m'aidera beaucoup. Pour échanger sur le sujet abordé avec Laura, laissez vos commentaires sous la photo de l'épisode 89 sur le compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.